Bonjour à tous, on la qualifie souvent de féminine. Certains diront qu'elle tient plutôt du roman policier ou du mythe d'un Sherlock Holmes ou d'un Hercule Poirot. Elle a d'ailleurs tendance à gêner ou à laisser perplexe puisque par définition, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le petit Robert, elle ne recourt pas au raisonnement mais tient de la connaissance immédiate. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de l'intuition. Intuition qui s'oppose par définition à ce qui fait l'objet d'une connaissance et d'une prise de décision rationnelle et normée, ce que l'on appelle souvent le process dans le monde de l'entreprise. Le process et l'intuition, quel juste équilibre? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle saison des conférences vie professionnelle quelques repères proposées par le Collège supérieur où nous avons posé nos studios. Trois invités pour tenter d'y répondre, un chef d'entreprise, un sapeur-pompier et un philosophe. Le chef d'entreprise, c'est vous, Bernard Perrault, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG de Feu Vert, une entreprise qu'on connaît bien, on a déjà entendu ce mot, on l'a vu souvent sur des enseignes, une entreprise de vente d'accessoires automobiles et de réparation. Une grande entreprise dont on oublie souvent qu'elle est née à Lyon, Bernard Perrault.
Oui, tout à fait. Elle est née à Lyon en 72, donc elle a 41 ans. Fondée par une famille lyonnaise. Et aujourd'hui, Feu Vert, c'est représenté dans 4 pays et à peu près 7500 salariés, avec de nombreux centres auto, plusieurs centaines de centres auto en France, en Espagne, au Portugal et en Pologne. Et donc le siège est basé à Écully.
Voilà, grosse entreprise. Alors vous, les process, vous connaissez. Quand je vous ai parlé, enfin quand on avait préparé cette émission, en parlant d'intuition, vous m'avez dit tout de suite, moi l'intuition, c'est un terme qui me choque. Alors pourquoi ?
Process et intuition, ça, c'est un peu réducteur comme titre. En fait, voire un peu provocateur. On se croirait que process et intuition, finalement, c'est peut-être complémentaire. Et puis quand on le lit, on se dit que c'est sans doute présenté comme opposé. Et en fait, moi, je me suis dit que ça excluait, par définition, d'autres systèmes de management. En fait, quand on parle de ça, on se dit c'est soit l'organisation finalement d'une entreprise est basée sur les process et ou sur l'intuition. Mais en fait, on laisse de côté pas mal de choses. Si on comprend l'intuition, comme vous disiez, si on comprend l'intuition comme une compréhension immédiate sans raisonnement d'une situation. Moi, je ne suis pas philosophe. Mais enfin, je suis chef d'entreprise. Et donc, par voie de conséquence, une intuition, elle finit. Elle se finalise sur une option, sur un jugement, sur une décision, sur un choix. Et dans l'entreprise, finalement, choisir en comprenant immédiatement une situation et sans raisonnement, ça me paraît très dangereux.
Donc, il n'y a pas de place. Quoi.
Ça peut avoir du sens, mais ça me paraît très dangereux. Dans l'entreprise, il n'y a pas de place à la poésie ou à la magie. Quoi. Donc... je sens que...
voilà, on entendra Bruno Roche, qui est le philosophe qui réagira tout à l'heure.
Donc, en fait, c'est ça un peu le problème. C'est-à-dire que en plus, quand on lit pas mal de choses sur le plan du management dans l'entreprise, sur l'intuition, tous les exemples qu'on nous donne, qui viennent pas mal de certains écrits des anglo-saxons, nous montrent des exemples de bonne intuition. Finalement, on s'aperçoit qu'on considère que l'intuition, a priori, est bonne, et que si par hasard la décision qui a été prise est mauvaise, c'est parce qu'on n'a pas suivi la bonne intuition qu'on avait eue auparavant. Hein. Donc, soit qu'on n'a pas suivi parce que le système a fait que la décision a été prise autrement, soit que c'est nous-mêmes qui ne l'avons pas suivi en disant « Ah zut, j'aurais dû suivre mon intuition parce que comme ça, j'aurais bien décidé. » Et finalement, l'intuition est présentée comme bonne, a priori, et donc aussi a posteriori. Et bon, dans l'entreprise, ça ne marche pas comme ça. Ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas l'intuition, finalement. C'est comment faire pour que l'intuition soit bonne.
Oui. Et donc, parce qu'on parle d'intuition des affaires. Hein, c'est un terme qui existe, une expression qui existe.
Je trouve que le terme d'intuition n'est pas très bien adapté au monde de l'entreprise. Moi, j'aurais préféré comme sujet process et responsabilité, process et initiative, process et liberté, process et créativité. Voilà.
Donc, mot mal choisi. Voilà.
Je ne sais pas, ça permet au moins d'avoir une discussion.
Alors, vous dites, je retiendrai plutôt à la place d'intuition, liberté, sens de l'initiative, créativité, responsabilité. La question qui nous est posée, c'est celle du juste équilibre. Comment fait-on dans une entreprise pour créer justement cet équilibre entre les processus, les procédures et cette liberté, cette créativité, cette initiative ?
D'abord, je reviendrai sur l'intuition. C'est-à-dire qu'en fait, elle est la compréhension immédiate d'une situation et puis les choix qui en découlent, ça ne va pas. ça va pas. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que l'intuition soit bonne par définition. Et donc, elle est basée sur la science, elle est basée sur la connaissance, elle est basée sur l'expérience, elle est basée sur une certaine forme de raisonnement. Alors après, je ne nie pas qu'il puisse y avoir une intuition. Il y a, comme disent les anglo-saxons, il y a un feeling, il y a un gut feeling que nous pouvons avoir. Donc ça me paraît d'ailleurs nécessaire. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est que ceux qui ont une intuition, c'est-à-dire en l'occurrence tout le monde, puissent bâtir cette intuition sur une science, sur un art, sur une connaissance, voire sur une conscience bien formée. D'accord, j'irais même jusqu'à la conscience bien formée, c'est-à-dire une conscience qui est formée, qui a vu ce qui était bien pour l'entreprise, ce qui était bien pour l'homme au sein de l'entreprise. Donc la question sur l'équilibre, bah, je pense qu'en fait, les process sont absolument impératifs.
On ne peut pas fonctionner sans process.
Moi, je vis dans une entreprise qui est très liée à la sécurité.
Elle doit réparer des voitures.
Sécurité automobile. Donc nous, on a des process pour tout. Et il est évident qu'un technicien ne peut pas ne pas suivre le process pour remplacer une courroie de distribution. N'a pas le droit de s'écarter du process. En revanche, l'équilibre qu'on peut trouver, il est essentiellement managérial, j'allais dire. C'est de laisser le collaborateur lui laisser un espace de liberté qui puisse lui permettre de non pas de dire non, mais d'apporter une réflexion sur le process.
De l'améliorer.
Une entreprise qui est organisée que sur les process, elle meurt.
Pourquoi? Parce qu'elle
devient stérile, elle tue l'homme à l'intérieur de l'entreprise puisqu'il n'y a plus aucune liberté, et elle se tue elle-même puisque finalement le process en tant que tel ne s'auto-améliore pas. Donc il s'améliore que si l'homme qui a créé le process ou qui l'applique, a un minimum de responsabilité, de liberté, de manœuvre pour pouvoir améliorer lui-même les process.
Alors dans votre entreprise, je crois que vous avez créé des modes de fonctionnement hiérarchiques, même des lieux qui sont ce que vous appelez des cellules start-up. Expliquez-nous de quoi s'agit-il ?
Alors, c'est de la responsabilité du chef d'entreprise, enfin du manager, pas nécessairement du chef d'entreprise, mais du manager. Nous, par exemple, on est en train de lancer un grand projet qui est un process aussi, en quelque sorte. Hein, mais c'est le seul process qui permet une liberté, finalement. On est en train de ce qu'on appelle la digitalisation de l'entreprise, donc de lancer l'entreprise sur tout ce qui est outils digitaux, web, etc. Donc, c'est un projet qui concerne toutes les dimensions de l'entreprise. Et on a créé donc physiquement des bureaux. Dans notre siège à Écully, des bureaux où on rassemble physiquement tous les gens qui s'occupent de ce process-là et de ce projet-là. Et au-delà des dépendances hiérarchiques, donc en fait, ils vont s'installer physiquement en face des uns des autres, non pas dans une salle de travail, c'est pas une salle de travail, ce sont véritablement des bureaux, et dans lesquels finalement on essaie de recréer l'esprit start-up pour faire jaillir quoi la créativité.
Quel type de personnes, par exemple, parce que vous dites qu'il y a plus
de hiérarchie. Il y a des gens de la communication, il y a des gens du web, il y a beaucoup de gens de systèmes d'information, de la logistique, parce que c'est très lié à la logistique aussi. Donc en fait, c'est vraiment tous les paramètres de l'entreprise, y compris même des opérationnels du réseau de centre auto, qui sont là pour voir comment on peut digitaliser, entre guillemets, un centre auto.
Et ils n'ont plus le même lien hiérarchique que d'habitude, c'est ça ?
Dans le cadre de ce projet-là, ils n'ont plus le même lien.
Donc ils n'ont plus les mêmes règles, vous changez tout d'un coup le cadre. Hein.
Absolument. On sort du cadre, bah, les Américains disent bien sortir de la boîte, hein, et c'est comme ça qu'on arrive aussi à favoriser l'initiative, à favoriser la créativité et à casser un peu les barrières de la hiérarchie, qui est nécessaire dans l'entreprise, mais pas dans ce cadre-là.
Voilà, et ça ne se fait pas tout seul, il faut créer un espace pour ça. Hein.
Bah, c'est la responsabilité du manager que de créer les conditions qui donnent intérêt à bien faire et qui donnent intérêt à chacun à faire jaillir sa liberté, sa responsabilité, son esprit d'initiative. Ça, c'est quand même le rôle des managers.
En préparant ce débat, vous me disiez aussi que vous souhaitez mettre l'homme au cœur de l'entreprise, l'homme au centre, mais ça, à la limite, beaucoup d'entreprises le disent ou peuvent le revendiquer, et qu'en fait, c'est assez complexe de le faire. Pourquoi ?
Bah, c'est un état d'esprit, d'abord. Je pense qu'il faut qu'on comprenne, il faut que chaque collaborateur comprenne, et nous-mêmes, ce que c'est qu'une entreprise. Une entreprise, ce n'est pas une machine. Un process, c'est une machine. Enfin, un process, c'est fait pour les machines. Enfin, une machine, c'est fait pour les process. Point. Donc, une entreprise, ce n'est pas une machine. Une entreprise, c'est un corps social qui vise à produire de la richesse, à créer de la valeur pour et avec ses clients, ses actionnaires, ses collaborateurs et toutes les parties prenantes. Donc, quand on a compris ça, c'est déjà pas mal, on a quand même compris que l'homme était indispensable, était au cœur de l'entreprise. Après, c'est le rôle du management. C'est le rôle du management que de se dire, bon, comment on peut améliorer les choses et comment on peut faire que l'homme à l'intérieur de l'entreprise soit source de créativité et source de responsabilité. Donc c'est le principe de subsidiarité, c'est essayer de ne pas recruter, on parlera de recrutement tout à l'heure, je crois, de ne pas recruter que sur des process justement, mais recruter aussi sur des valeurs. Et le savoir-être est aussi important que le savoir-faire dans l'entreprise.
Alors process et intuition, quel équilibre? On en parle ce soir avec vous, Bernard Perrault, vous êtes donc PDG de Feu Vert. J'évoquais qu'il y a un PDG autour de cette table, mais il y a un pompier. Et ce pompier, c'est vous, Daniel Quessu. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes lieutenant-colonel, vous êtes chef de groupe et aussi chef du centre de la Croix-Rousse. Vous êtes un homme d'expérience, hein, plus de 30 ans de service. Et pour vous, le mot intuition, c'est un mot qui vous plaît, en fait. C'est étonnant parce que vous êtes d'abord un métier de... S'il y a bien un métier de process, c'est bien celui de pompier. Il y a des procédures quand on est pompier.
Ah ben je vous confirme, nous sommes un métier de process. Alors, qui me plaise, en tous les cas, il m'intéresse parce qu'il a déclenché autour de moi, quand j'ai pu en parler, du fait que je venais vous voir ce soir, il a déclenché beaucoup de réactions. Tout d'abord, de la part de mes collègues de travail, qui, eux, le perçoivent très mal. Ils m'ont dit, tu parles de quoi? Tu nous parles d'intuition? C'est quoi? C'est de la prémonition? C'est de la voyance? Non, c'est pas du tout ça. C'est dans quel cas vous avez pu rencontrer dans des interventions un moment qui vous a fait changer dans la conduite de l'intervention. Donc, parlons de flair, parlons de feeling, parlons de quelque chose qui vous grattait. Alors là, ça les intéresse.
Ça leur parlait tout de suite.
Ça leur parle. Donc déjà, derrière ce terme, on peut mettre beaucoup de choses derrière la notion d'intuition. Ensuite, ma hiérarchie a aussi été très intéressée par ça en disant, écoute, depuis des années, nous mettons en place des process. Fais attention à ce que je vais dire, quand même, l'intuition n'a pas sa place chez nous. Et on a un adage dans notre profession qui est de dire, au niveau fonctionnel ou au niveau opérationnel, qui est de dire, faisons ce que nous écrivons, écrivons ce que nous faisons. Et c'est surtout au niveau opérationnel. Moi aussi, j'en ai un adage qui est de se dire, méfie-toi de ta première impression, c'est souvent la bonne. Donc on va essayer de mettre tout ça en phase. Pour comprendre ces réticences, un sapeur-pompier s'entraîne, se recycle, acquiert de l'expérience, se forme de nouveau, discute de ses interventions, fait des débriefings. Bon, derrière, il n'y a pas grande place à l'intuition. Pourtant, on pourrait être amené à gratter, à en utiliser le terme flair. De l'autre côté, notre direction, pour vous donner une idée, nous avons des notes de services opérationnels, des notes d'information opérationnelles, des ordres d'opération, des directives opérationnelles. Nous avons près de 200 notes actuellement qui sont pérennes et qui nous expliquent comment intervenir.
C'est des procédures qui définissent ce qu'il faut faire, des scénarios.
À partir du moment où une personne fait le numéro, le 18, ouais, jusqu'à notre fin d'intervention. Tous les acteurs sont concernés par ces notes opérationnelles.
Tout est codé, toutes les étapes.
Tout est codé. Donc pour nous, c'est quelque chose de très important. Ça nous permet de comprendre ce que nous devons faire, mais aussi ce que doivent faire nos collaborateurs et les personnes qui interviennent, les autres services publics. Je pense au SAMU, à la police, à la gendarmerie, à RGDF, enfin à tous les autres services publics.
Donc il n'y a pas du tout d'intuition là-dedans?
Non, il n'y a pas d'intuition. Alors, on pourrait en trouver une petite intuition quand même, dans une note qui est peut-être la plus importante, qui est un process quand on est face à une intervention sur le gaz. Et il nous est dit, alors quand même le process là c'est 16 pages, hein, écrit en petit, qui nous dit, alors je vais vous le lire, c'est le mieux, plutôt que je vous donne une imprécision. C'est l'action réflexe du commandant des opérations de secours en cas de fuite de gaz. On nous dit, le commandant des opérations de secours fait procéder à l'évacuation de la zone d'exclusion. En situation exceptionnelle, il est le seul à décider du confinement de tout ou partie de la population concernée.
Donc de ne pas évacuer.
De ne pas évacuer. En situation exceptionnelle. C'est quoi une situation exceptionnelle? Si vous pouviez m'aider dans la définition de ce terme, ça m'aiderait et ça aiderait beaucoup de mes collègues. Donc on a retrouvé aussi dans d'autres notes cette notion que le commandant des opérations de secours a toute latitude pour mener à bien son intervention par rapport à ce qui est écrit. C'est-à-dire que le rédacteur se rend compte que les situations auxquelles nous sommes confrontés sont tellement nombreuses, variées et imprévisibles que l'on ne peut pas tout codifier.
On ne peut pas tout prévoir.
On ne peut pas tout prévoir. Donc il appartient au commandant des opérations de secours de faire en son âme et conscience professionnelle, bien sûr.
Alors, par exemple, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ce champ de liberté, qui est d'ailleurs évoqué dans les notes là, dont, que vous décrivez, un exemple, comment ça peut se concrétiser ? Comment on peut avoir besoin de sortir des procédures quand on est pompier ?
Alors, c'est très difficile parce que moi-même, je suis officier sapeur-pompier. Je suis passé par une école nationale des sapeurs-pompiers où j'ai été formaté par quelque chose sur le commandement qui s'appelle le GOC, gestion opérationnelle et commandement, qui me permet d'aller dans n'importe quel lieu de France et de Navarre et de parler avec mes collègues et de m'impliquer dans n'importe quelle action opérationnelle. De même qu'un de mes collègues d'un autre département pourrait s'intégrer dans un dispositif opérationnel. Donc, ça nous permet de parler le même langage. Et là, il y a beaucoup de choses. On parle de situations, d'anticipation, d'idées de manœuvre, de différentes tâches à accomplir. En fait, il y a des tas de termes. Chaque officier a une fonction, chaque fonction a sa fiche. On vous la décrit. Vous êtes officier renseignement, officier action, officier moyen, officier gestionnaire du centre de regroupement des moyens. Donc tout ça est très codifié. Et pourtant, eh bien, on se rend compte... Alors, je vais vous parler plutôt d'une étude qui date d'une dizaine d'années, qui a été faite dans les milieux des sapeurs-pompiers sur le commandement des opérations de secours. Et on a voulu vérifier comment le commandant des opérations de secours était amené à choisir la bonne idée de manœuvre, ce qu'il convenait de faire.
C'est des psychosociologues.
C'est des psychosociologues qui ont réalisé ça. Donc, de voir quand vous aviez 2, 3, 4, voire peut-être 5 idées de manœuvre, eh bien, comment vous faisiez pour faire le bon choix ? Ils ont suivi des sapeurs-pompiers dans de très nombreuses interventions d'une ampleur qui n'était pas anodine, qui était significative. Et ils se sont rendus compte en fait, qu'il n'y avait pas 4 solutions, il n'y en avait pas 3 ni 2, mais dans 80% des cas, le commandant des opérations de secours avait une seule idée de manœuvre, une seule solution face à l'événement. Et plus il était expérimenté, et plus ce choix était certain. Alors pour nous, ça remet en cause beaucoup de choses dans les situations de crise. Hein, où on demande d'anticiper, d'aller voir, de prévoir, d'avoir un regard un peu très exhaustif sur les choses. Bah là, non, ça se joue tout en quelques secondes. Hein, c'est un réflexe intuitif, une intuition réflexive, je ne sais quel terme utiliser, mais on est dans cet ordre. Et quand on peut être amené à demander au commandant des opérations de secours pourquoi ? Et là, on commence à être embêté. Pourquoi ? Parce que je le sentais comme ça. Et la personne peut s'enferrer dans un raisonnement qui prêterait à s'inquiéter parce qu'il manque d'éléments pour le construire de suite.
C'est ça l'intuition, en fait. Vous êtes en train de nous donner la définition de l'intuition.
L'intuition ou le flair ou l'expérience, il y a beaucoup de choses derrière. Parce que quand j'ai pu me renseigner sur l'intuition, normalement, pour que l'étincelle puisse jaillir, il faudrait être dans un environnement très calme. Se recueillir dans un lieu, j'allais dire, dans l'obscurité, être seul avec soi-même. C'est tout le contraire d'une intervention sapeur-pompier où tous les sens sont mis dans un drôle d'état. Oui, hein, le bruit, le visuel, l'auditif, le visuel, l'odorat, donc tout est stressant.
Donnez-nous un exemple. Hein. On l'a évoqué ensemble en préparant cette émission. Hein. Vous avez un exemple très précis dans le cas d'une maison qui était prête à s'écrouler.
Alors cet exemple, j'ai pu l'avoir non pas quand j'ai parlé d'intuition, mais quand j'ai parlé de flair. Donc le terme est important, parce que si vous dites intuition, c'est prémonition, c'est voyance. L'intuition est féminine, donc les sapeurs-pompiers sont toujours encore un peu méfiants sur ce qui peut avoir trait au côté féminin dans la profession. On va en progressant, mais il y a encore du chemin à faire. On m'a relaté une intervention où nous sommes partis, les sapeurs-pompiers de la Croix-Rousse, avec un engin qui est un fourgon sauvetage déblaiement pour une maison dans laquelle il y avait des fissures. C'est assez courant. Quand le chef d'agrès, le chef du véhicule est arrivé, donc il a constaté les fissures et on lui a donné l'ordre, par l'officier présent, de mettre des étais pour éviter que la maison, pour consolider la maison. Et lui a regardé l'ensemble des fissures et tout ce qui lui apparaissait, qui était en visuel et puis même en auditif, il entendait des légers craquements. Et il lui a dit à l'officier, je ne le sens pas. Et l'officier, pourquoi tu ne le sens pas ? Ben, je ne sais pas, je regarde. Non, je n'y sens pas, là, on ne va pas étayer, non, il faut se tirer. Donc l'officier a été un peu surpris parce que le rôle, quand même, on doit avoir une action et pas s'éloigner. Mais ordre a été donné à l'ensemble des sapeurs-pompiers de s'éloigner de cette maison. Et comme on pourrait le voir au niveau cinématographique, dès que le dernier sapeur-pompier est sorti de la maison, l'ensemble de la maison s'est écroulé. Voilà. Donc, elle a marqué beaucoup les sapeurs-pompiers, parce qu'ils en ont beaucoup discuté entre eux, de cette intervention, de voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, des tas de personnes y ont mis des termes différents. C'est l'expérience. Il a vu les fissures, il tombait de la poussière. Mais quand vous regardez tous ces éléments, souvent, on a les mêmes éléments et dans des situations où on est resté à l'intérieur de la maison et on a étayé, il ne s'est rien passé. Et le même sapeur-pompier ne voulait pas parler d'intuition. Il n'était pas capable de vous dire pourquoi il a fait évacuer. Simplement, il ne sentait pas cette intervention.
Alors, on va continuer à parler de l'intuition et du process, non plus avec le chef d'entreprise ni le pompier, mais avec le philosophe. Bruno Roche, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes consultant aussi auprès d'entreprises et vous êtes responsable des activités entreprises du collège supérieur. Alors, comme tout bon philosophe, j'aimerais qu'on prenne un petit peu le temps avec vous de poser les termes du sujet. Comment définir les termes de process et d'intuition ?
Écoutez, bon, c'est vrai que la notion d'intuition est aussi vieille que la philosophie. Elle naît avec les Grecs. Descartes lui accorde une importance très grande, puisque pour lui, il y a deux actes de l'esprit, l'acte de l'intuition et par ailleurs l'acte de la déduction. Intuition des éléments simples qui constituent un raisonnement, par exemple les axiomes en mathématiques. Et ensuite, donc, déduction de l'ensemble des postulats, des propositions que l'on peut inférer à partir de ces propositions simples.
Donc c'est sérieux, l'intuition.
Hein, oui, c'est très sérieux, c'est très lourd. Je m'inscris en faux contre ce que j'ai entendu de la part de M. Perrault, notamment, sur le caractère magique de l'intuition. Non, chez les philosophes, ça n'a rien de magique. L'intuition est vraiment liée à la saisie immédiate, pourrait-on dire, du vrai, de la vérité. Voilà, l'enjeu de l'intuition, c'est un jeu très fort.
Rien que la vérité.
Ah oui, ça met en jeu la vérité. Alors là où je suis d'accord avec M. Perrault, c'est de ce point de vue-là, l'intuition n'est pas vraiment à mettre en balance par rapport au process ou au processus. Vous voyez, le terme opposé de l'intuition, c'est la déduction. Alors on peut dire la déduction, c'est un process. C'est vrai, on parlera d'un process de déduction. Quand un élève rendra une copie qui n'est pas du tout démontrée, on dira... vaguement intuitif dans la marge, vous voyez, ça veut dire que finalement l'élève est allé directement au résultat où il a asséné la proposition sans indiquer les rapports d'implication qui lui permettent d'aboutir à cette conclusion. Donc tout ça, vous voyez, nous indique qu'en philosophie, c'est vraiment lié à la construction de la vérité, à la manière de construire la vérité et de la mettre en forme, je dirais. Alors, par ailleurs, il y a quand même une date très importante pour nous. Si on veut recoller à la question du processus et se rapprocher de l'entreprise ou, je dirais, de la technique, c'est 1911.
Pourquoi 1911 ?
Eh oui, pourquoi 1911 ? Parce que 1911, c'est la date de publication des principes du management scientifique de l'ingénieur Taylor, qui est l'ingénieur en chef donc de Monsieur Ford.
C'est la naissance du taylorisme.
C'est la naissance du taylorisme. Et alors là, il se passe quelque chose de très intéressant. C'est que, alors que jusque-là, l'ouvrier arrivait avec ses outils et traitait la tâche qu'il avait à accomplir selon toute son expérience et selon ce que lui semblait imposer la situation qu'il avait à affronter.
C'est son savoir-faire, quoi.
Le savoir-faire, l'œil, le flair, c'est une clé de 12, c'est pas une clé de 13, c'est telle qualité d'huile, c'est pas telle autre, etc., etc. Un peu ce que M. Quessieu a dit tout à l'heure. Hein. Eh bien, dorénavant, c'est un bureau des études qui fixera the one best way. Et alors c'est une révolution. Enfin, on ne peut pas comprendre, vous voyez, tout le développement de l'industrie sans comprendre cet acte fondateur qui va le bouleverser complètement le paysage de l'industrie. Et d'ailleurs, Taylor, de manière très intéressante dans son texte, dit ainsi, la responsabilité de l'erreur n'incombera plus seulement à l'ouvrier, mais cette responsabilité sera partagée entre l'ouvrier et le bureau des études, puisque finalement, les ingénieurs ayant réglé le process,
eh bien, c'est à eux, finalement, qu'il reviendra aussi, en partie, de porter la responsabilité de l'échec.
Ça veut dire quoi? Qu'il n'est plus totalement responsable de ses actes?
Alors, ça veut dire, voilà, le problème, c'est bien sûr que cette responsabilité, elle est transmise, pour ainsi dire, au bureau des études, donc elle ne lui revient plus. Et on sait bien que ça a été une très grande difficulté ensuite de l'organisation industrielle du travail, que cette déresponsabilisation de l'acteur qui est presque plus un acteur. Alors, quand en philosophie, on entend le mot « process » ou quand on entend le mot « processus », on entend quelque chose qui se réalise selon un plan prédéfini et qui tend à l'économie des acteurs. Et j'insiste sur ce dernier point, qui tend à l'économie des acteurs.
On fait des économies.
Alors, on peut faire des économies sur les acteurs, mais ce qui est très important, c'est que l'idéal du process, c'est d'être sans sujet, finalement, c'est-à-dire de n'avoir plus que des opérateurs au lieu des acteurs. Et vous savez qu'aujourd'hui, enfin, M. Perrault le sait mieux que moi, mais quand on fait travailler des conseils en optimisation industrielle, ces conseils décrivent de manière extrêmement pointue la tâche qui est à accomplir sur une chaîne, par exemple, et indiquent le one best way pour chaque point de la tâche à exécuter.
On la filme même en détail, on passe en ralenti les gestes pour optimiser.
Etc., etc. Et donc, on voit bien à quel point, finalement, l'horizon du processus, c'est de transformer l'acteur en un opérateur qui a son mode d'opération et qui doit suivre scrupuleusement le mode d'opération.
Alors là, c'est là où on est complètement en opposition avec l'intuition ou pas du tout?
Alors voilà, la question que M. Perrault a très bien dit, le problème ensuite qui se pose au management, et je suis d'accord avec lui, le problème c'est la responsabilité, c'est l'initiative, c'est la liberté. Et de fait, il y a un certain, moi, enfin, dans les actions de conseil que je conduis, je sens qu'il y a un certain blues aujourd'hui des managers, clairement.
C'est-à-dire?
Pourquoi? Eh bien parce que ces process qui, finalement, étaient d'abord liés aux actions de production et de fabrication, peu à peu, ces process ont envahi l'ensemble de l'entreprise. Et on en a parlé un peu tout à l'heure. Process de recrutement, process de qualification et de qualité. Autrement dit, il n'y a plus un seul domaine ou un seul lieu de l'entreprise qui échappe à cet
envahissement
des process. Et le cadre qui est là précisément pour sa capacité d'initiative, de réponse à la complexité de l'environnement, sans lui-même qu'il est contraint finalement par ses process, par des process de contrôle venant des comités exécutifs, par des process d'exécution et d'efficience. Bon. Et ils ne le diront pas, évidemment, devant leurs directeurs généraux, mais ils se sentent en quelque sorte volés d'une part de l'initiative et de la responsabilité qui définissait précisément le rôle du cadre. Et M. Perrault a la chance de travailler dans un groupe qu'il dirige véritablement. Mais combien de directeurs généraux ici, en France ou en Europe ou dans le monde, sont entre les mains d'un conseil de surveillance ? Qui, là encore, détermine une stratégie, la met en process et demande aux directeurs généraux de ne rien faire d'autre que d'appliquer strictement les process qui ont été identifiés. Et donc, je pense, M. Perrault n'a pas insisté là-dessus, je pense qu'il faut insister là-dessus, il y a là potentiellement une vraie crise du management. Voilà pourquoi les élèves que j'ai en classe préparatoire, évidemment, préfèrent le modèle start-up ou le modèle à hiérarchie plate, comme on dit, parce que précisément, là, ce n'est pas dans une petite cellule misérable que l'on va permettre aux gens de retrouver de l'initiative, mais c'est tous les jours, dans tous les actes de la vie de l'entreprise, que cette initiative sera présente.
RCF Lyon-Fourvière, Philippe Lansac.
Bienvenue sur RCF si vous nous rejoignez. Process et intuition, quel juste équilibre? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui au Collège supérieur où nous avons posé nos studios pour une émission spéciale dans le cadre du cycle de conférences Vie professionnelle quelques repères. Autour de la table, Bernard Perrault, PDG du groupe Feu Vert, le lieutenant-colonel Daniel Quessu, sapeur-pompier, et puis Bruno Roche, philosophe et responsable des activités entreprises du Collège supérieur. Bernard Perrault, on a entendu après vous le pompier qui disait « Tiens, derrière les process, il y a quand même une place pour l'intuition. » Et puis, avec le philosophe à l'instant, on a entendu les limites que peuvent avoir les process dans une entreprise. Alors d'abord, réaction à ce qu'a dit le pompier sur ce sens du flair où derrière les process, ben, il y a une place au fond pour le flair, le feeling.
Dans l'entreprise aussi, finalement, on est confronté à des décisions, puisque là, il s'agit quand même de décisions aussi, de dernière minute, non, sur des situations qui étaient imprévisibles.
Par exemple, dans
l'entretien automobile, dans un atelier, il faut suivre un process, mais il peut y avoir quelque chose qui se passe dans le véhicule qui fait qu'il y a un moment où la question se pose. Est-ce que le process doit être suivi, interrompu, ou est-ce qu'on change parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait autre chose qui n'allait pas et qui peut être dangereux, hein, parce que finalement, il y a quand même on n'a pas eu d'événements dramatiques chez Feu Vert, et Dieu nous en préserve, j'allais dire, mais qui peuvent être dramatiques pour nos employés aussi, et ensuite pour ceux qui conduisent leur propre véhicule. Donc en fait, il y a des décisions qui sont prises par le flair, qui sont prises par l'intuition, mais le point, c'est de se dire, cette intuition-là et ce flair-là, pour l'avoir et pour que la décision soit bonne, il faut bien qu'auparavant, tout de même, il y ait eu quelque chose. Il y a eu de l'expérience, il y a eu de la formation, il y a eu de la conscience, il y a eu une prise du bon sens, du sens commun, du sens du bien commun. Voilà, donc en fait, l'intuition, bien entendu qu'elle existe, mais enfin bon, si je m'étais marié par intuition, je me serais marié avec ma première copine à 6 ans, en classe.
Oui. Bon, non. Donc c'est très important ce que M. Roux dit là. C'est-à-dire que même en philosophie, on trouve cette idée que l'intuition, ce n'est pas une espèce d'évidence étincelante qui viendrait n'importe comment pour n'importe qui, mais on voit bien que c'est le résultat, alors j'allais presque dire d'un processus, qui est un peu contradictoire, c'est pas le résultat d'un processus, parce qu'il y a une discontinuité, mais il faut beaucoup de choses, il faut regrouper beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement liées dans une relation de cause à effet, vous voyez, d'un côté l'expérience, mais l'expérience dans le métier, mais aussi l'expertise hors du métier, des choses que la curiosité m'aura permis de comprendre. Et donc, c'est le résultat de toute cette déambulation de l'esprit, je dirais, de tout ce cheminement de l'esprit qui, à un moment donné, à l'image d'Archimède dans son bain, qui dit « Eureka », mais moi, si je suis dans mon bain, jamais je dirais Eureka, et jamais, enfin je peux dire Eureka, mais jamais le Eureka ne sera suivi de l'énoncé du principe d'Archimède. Archimède, donc, dans son bain, dit « ça y est, j'ai trouvé », et l'intuition, ça claque comme ça, comme un claquement de doigts. C'est peut-être pas très radiophonique, ça.
Si, ça fait du bruit.
Si Archimède peut énoncer ce principe, c'est qu'en fait, il a beaucoup réfléchi à 1000 problèmes de physique. Il s'est confronté à plein de difficultés. Il a rencontré plein de gens qui lui ont donné des hypothèses. Il a confronté ces hypothèses, etc. Et puis, tout à coup, des éléments épars, donc j'insiste, qui ne sont pas liés linéairement, à la différence justement du process où les étapes sont liées linéairement, ces éléments épars, à un moment donné, donne une réponse qui n'était peut-être même pas attendue d'ailleurs, qui n'était peut-être même pas cherchée.
C'est quoi ? C'est une connexion entre des process séparés,
oui,
comme un chercheur
ça.
Qui cherche depuis des années, puis qui tout d'un coup il fait...
Oui, oui. C'est un peu ça. Vous savez, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui qui sont faites autour de ce qu'on appelle la sérendipité.
Alors, c'est
un truc bizarre, la sérendipité. Mais c'est le fait de trouver des choses que l'on ne cherche pas. C'est le fait de se mettre en disponibilité pour trouver des choses qui ne sont pas directement liées au protocole de recherche dans lequel je suis impliqué. Je crois que l'intuition, c'est quelque chose comme ça, en effet. Vous dites connexion, c'est assez juste, ça. C'est la connexion entre des éléments qui ne sont pas liés les uns aux autres et qui, tout à coup, font masse, pour ainsi dire, pour produire une réponse.
Oui. Daniel Quessu, quelle qualité il faut avoir, selon vous, justement, pour avoir cette intuition, sens snob du terme, que vous évoquiez tout à l'heure?
Oui, tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce que j'entends. Je suis tout à fait d'accord. Il est excessivement difficile. Il faut beaucoup d'expérience pour arriver dans une situation stressante, qui est la situation de l'officier sapeur-pompier, pour prendre une décision tout simplement raisonnable, plutôt que rationnelle, en se fondant sur une solution simple plutôt que parfaite. Là, c'est l'expérience. Alors maintenant, pour répondre à votre question, moi, je mettrais 4 éléments pour que l'intuition, le flair, je suis toujours très prudent sur le terme à utiliser, hein, puisse se révéler à nous. La première chose, bien évidemment, c'est les connaissances professionnelles. Il faut avoir des connaissances. Quelqu'un qui aurait très peu de connaissances et qui, sur une intervention, me dit « j'ai une intuition », il m'effraierait. Ensuite, l'expérience, les connaissances. Ensuite, l'expérience, parce qu'on a été confronté à des tas de situations et inconsciemment, on les a mémorisées, on a mémorisé des solutions. Le point suivant, il est beaucoup plus personnel, ça serait l'affirmation de soi. C'est-à-dire que vous êtes dans un groupe, sur une intervention, et à un moment donné, vous avez un raisonnement, mais vous avez du mal à l'étayer et pourtant, il va falloir l'affirmer en disant « je ne la sens pas cette intervention, et je ne la sens pas, et je l'affirme, et je n'ai pas beaucoup d'éléments à vous donner, mais non, ce n'est pas la bonne solution ». Et ça, c'est difficile, parce que la crédibilité auprès de ses collègues, on attend des choses précises, hein, quasiment, on attend du rationnel en face, on n'en a pas à fournir.
Il faut avoir une capacité à convaincre, quelque part.
Capacité à convaincre et à dire, apporter, d'essayer de trouver des éléments ou à s'affirmer en disant qu'il y a danger. Et le dernier point, se méfier, comme disait M. Roche, des fausses intuitions qui sont très dangereuses et de ne pas projeter ses propres craintes, ses propres angoisses, ses propres désirs sur la situation et par là même sur les solutions. Voilà, ça serait ces 4 points que je vois principalement.
Bernard Perrault, on entendait tout à l'heure Bruno Roche qui nous parlait des processus en nous remettant dans l'histoire du taylorisme qui peuvent aboutir à une certaine justement stérilité de l'esprit d'initiative. Comment on situe la ligne rouge où il y a trop de process dans une entreprise? Comment on le sait, ça?
Aucune idée.
Non, parce que c'est un enjeu, hein, parce que derrière, si l'entreprise s'appauvrit parce qu'il n'y a plus de créativité.
Je pense que la ligne rouge, il y a trop de process, c'est au moment où on verra, admettons que les process soient bien définis, hein, d'accord. C'est au moment où on verra finalement les hommes qui appliquent les process ou qui les utilisent ou qui les définissent, qui deviendront eux-mêmes des machines. Finalement, le process, il est fait pour la matière. Je crois qu'il faut être proche des réalités. La réalité, il faut d'abord savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Et la réalité, elle est faite pour nous. Elle est faite pour être reconnue et pour être adaptée, pour être transformée, pour servir pour la nature humaine. Donc par voie de conséquence, le process, il est fait pour la matière et la liberté, elle est faite pour l'homme. Et si on commence à mettre les hommes en process, bah là, il y a trop de process. Bon, après, la ligne rouge en tant que telle avait des exemples très précis, j'en aurais pas à vous donner. Mais c'est à nous les managers de s'en apercevoir en disant là, attendez là. Et d'ailleurs, la remarque que vous faisiez, Monsieur Roche, sur les consultants, notamment les consultants en organisation, c'est incroyable de voir qu'ils ne parlent que de process. Et je suis d'accord sur le fait qu'il faut des process, évidemment, mais ils ne parlent que de process. Ils mettent tout en process, y compris les hommes. Un mot sur la satisfaction que j'ai eue à vous écouter. La première, c'est qu'un chef d'entreprise, finalement, il est fait pour un chef d'entreprise, un philosophe pour être philosophe.
C'est un constat.
Et la deuxième, c'est qu'on a encore tous les deux beaucoup de travail devant nous. Parce qu'en fait, quand vous dites, l'intuition, c'est la manière de construire la vérité, de la mettre en forme. Ben, moi, quand j'ai regardé un peu, parce que je me suis un peu renseigné sur ce que c'était que l'intuition, c'est une catastrophe, parce qu'on ne voit absolument pas ça dans ce qu'on cherche, sur Internet, sur Google, intuition sur le plan managérial, sur la partie philosophique, je n'ai pas cherché. Ouais. Et au contraire, j'ai vraiment eu peur. Et je me suis dit, c'est du relativisme. Mmh. Ce n'est pas du tout la vérité. Ouais. Je me suis dit, c'est du relativisme, parce que finalement, l'intuition, elle est bonne pour tout le monde. Chacun a une bonne intuition, donc par conséquent, c'est du relativisme. Mais la vérité là-dedans, elle n'existe pas.
Ah, oui.
C'est la dictature du relativisme, comme disait Benoît XVI.
Ouais,
c'est ça. Hein.
Deux choses. Oui, alors c'est là qu'il y a un écart, justement, entre l'intuition telle qu'elle est pensée, googlisée, et pensée peut-être dans le monde des, je sais pas, enfin du management, entreprise, etc. Et puis vraiment son sens proprement philosophique, où c'est tout le contraire, justement, de la... C'est l'intuition, elle est là justement pour lutter contre le relativisme et contre le propos qui vise à dire que tout se vaut, et, etc. Donc elle a une valeur discriminante, justement. Elle permet d'identifier ce qui est vrai par rapport à ce qui ne l'est pas. Le deuxième point, je crois que c'est que il y a quand même aujourd'hui, si on revient du côté des consultants ou du moins de ce qui est enseigné dans les écoles de management, il y a quand même aujourd'hui une vraie problématique de l'entreprise agile. Et la problématique de l'entreprise agile, en fait, c'est quoi ? Eh bien, c'est que précisément, ça part, si vous voulez, de deux constats. Le premier constat, c'est que l'agilité, c'est la capacité à déclencher des mouvements rapides dans un environnement extrêmement changeant. Et d'autre part, donc, l'activité, comme on l'a dit, est de plus en plus normée, processée, etc. Et donc, la problématique de l'entreprise agile aujourd'hui, c'est de voir, c'était la question que vous posiez, c'est de voir comment les process peuvent ne pas annuler le jeu de jambes dans l'entreprise. Si vous voyez, aujourd'hui, l'idéal, je prends une image un peu suisse, mais l'idéal, c'est que l'entreprise soit réglée comme une horloge suisse, et ça, c'est le process, mais en même temps, est le jeu de jambes de Nadal. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui sont faites aujourd'hui. Enfin, Microsoft en a fait son pilotage RH, vous savez, c'est l'entreprise agile. Bon, et donc, il y a beaucoup de recherches du MIT, de Harvard, etc. Il y a des chaires qui sont entièrement consacrées à ça. Aussi parce que la génération Y, génération Z, c'est une génération qui est justement la génération de la connexion, génération de l'intuition, pas de la déduction, pas de la linéarité, pas du modèle mécanique, mais du modèle informatique. Et ça, il va falloir l'intégrer.
Ouais, c'est complexe. Hein.
Mais attendez, c'est quand même...
Pas très proche de la vérité.
Et pas très proche de la vérité, oui. Mais si vous voulez, ce qu'il faut, c'est aussi voir quel est le logiciel mental des gens qui arrivent dans les entreprises lesquels ont un logiciel et aussi un formatage de leur mode de fonctionnement, etc. Je crois que ça, c'est très sérieux. C'est des sujets. Pour moi, la problématique de l'entreprise agile, c'est vraiment une question qui est au cœur de notre débat.
Lieutenant-colonel Daniel Kessu, j'aimerais qu'on évoque avec vous une notion qui est reliée, mais qui est un peu différente, qui est celle de la décision absurde. Alors, expliquez-nous de quoi s'agit-il et pourquoi ça pose question.
La décision absurde... C'est dans un groupe quand de nombreuses personnes sont amenées à réfléchir sur un sujet et qu'il y en a une qui va prendre la parole mais qui semble ne pas avoir été entendue par l'ensemble de ses collègues et qui n'ose pas continuer dans son argumentaire. C'est aussi de nombreuses personnes qui se réunissent pour débattre d'un sujet et on va arriver à une solution et cette solution ne donnera satisfaction à aucun des membres et aucun des membres de cette réunion ne s'y retrouvera. Et c'est ainsi que nous avons, par exemple, les collisions entre navires, elles résultent très souvent du fait que tout a été mis en œuvre pour éviter la collision. Que quand un avion se crache, c'est souvent l'avion était piloté par un pilote très expérimenté et non pas par un copilote. Parce que si ça avait été un copilote, le pilote l'aurait repris maintes fois pour lui dire qu'il ne respectait pas certains process. Pour nous, les sapeurs-pompiers, il n'y a rien de plus dangereux qu'une intervention en gaz quand vous avez l'officier sapeur-pompier avec un gazier, donc un cadre du gaz. Parce que le cadre du gaz, eh bien, il est rassuré, il est avec un spécialiste du risque qui en a vu d'autres dans sa vie. Il n'a rien à craindre. Et l'officier sapeur-pompier, il n'y a rien de plus facile pour lui. Il est avec un spécialiste du gaz, il est complètement rassuré, il en a vu d'autres. Et voilà, vous avez deux personnes complètement rassurées qui vont être amenées à avoir un comportement dangereux.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer le mode de fonctionnement, il faut que le sous-chef puisse devenir le chef de temps en temps, c'est quoi l'idée?
Ça signifie qu'il faut beaucoup discuter, puis mettre en place même... Alors là, je vais revenir sur les process, des process très simples. Les process... alors, il y a beaucoup d'éléments que l'on pourrait amener pour lutter contre ces décisions absurdes. Bon, déjà, dans la médecine, une infirmière n'osait pas contredire un médecin, un chirurgien. Mais il y a des process qui ont été mis en place et l'infirmière doit décrire à voix haute, poser des questions, je dis bien à voix haute, au chirurgien qui répond, ou inversement. Et la première question, c'est nom et prénom du patient qui va être opéré.
Pour comment on opère la bonne, hein, c'est ça.
Qu'on opère la bonne parce qu'il y a eu de nombreux accidents. Donc, sans que la question soit posée, sans qu'elle soit vérifiée. L'armée, on a beaucoup de choses à apprendre. L'armée de l'air, elle, en aucun cas, on ne sanctionne une erreur. Une bourde, elle doit être portée à la connaissance de tous pour qu'elle soit éducative, cette erreur. Et dans nos nombreuses autres structures, dès qu'on arrive à faire une grosse gaffe, le principal vide, c'est de la mettre sous le paillasson que personne n'en ait connaissance. Dans les sous-marins nucléaires, je vais vous donner cet exemple où on est amené, la hiérarchie est excessivement rigide. Pourtant, quand il y a une décision qui est prise par le commandant de bord qui ne convient pas du tout à ses seconds, les seconds enlèvent leur galon pour montrer leur mécontentement et veulent rentrer dans une phase de discussion. Donc, ça implique de l'affirmation de soi, des process en même temps, tout ça pour tendre, pour se dire on doit discuter.
Voilà. Le sous-lieutenant dans le sous-marin, justement, il enlève ses galons et pour justement n'être plus soumis à l'ordre et pouvoir contredire l'ordre.
C'est tout à fait ça. Il sort de ce cadre hiérarchique pour qu'on puisse l'écouter et qu'il puisse formuler toutes ses remarques.
Bernard Perrault, comment vous réagissez à cette idée de décision absurde ?
Cette décision absurde, ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années chez Feu Vert, où on discutait avec un de mes collaborateurs qui est membre du comité exécutif et qui me disait « Demain, on a un COMEX, on va pouvoir se mettre d'accord sur tel sujet. » Et mon intuition, puisque j'ai tout de suite compris la situation, m'a fait lui répondre « Non, il ne s'agira pas de se mettre d'accord, il s'agira de prendre la bonne décision. » Et là, il a... Donc, silence radio. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que, véritablement, si au sein d'un comité exécutif, au sein d'un groupe de travail, on cherche le consensus, on cherche à se mettre d'accord, la décision sera absurde. La décision peut être absurde. L'enjeu n'est pas d'être d'accord. L'enjeu, c'est de prendre la bonne décision. Et donc, en fait, à ce moment-là, l'image, c'est pas une image, finalement, d'enlever ses galons pour pouvoir avoir liberté de parole. Moi, c'est pas la peine qu'ils les enlèvent, ils en ont pas. Donc, en revanche, mais ils sont virtuels. Voilà. Je cherche absolument, moi, à ce qu'ils puissent s'exprimer et à contredire l'autorité ou du moins l'avis d'un autre. Enfin, l'autorité, quelle que soit d'ailleurs, hiérarchique ou pas, afin de trouver la bonne décision.
Bon ange.
Oui, moi, je suis très intéressé par cet exemple-là, où le geste symbolique d'enlever ses galons pour restaurer en quelque sorte une égalité qui est celle de la délibération. Je trouve ça très, très, très intéressant. Mais de manière un peu plus, je dirais, organisationnelle, si on s'intéresse aux organisations des entreprises, j'évoquais tout à l'heure les hiérarchies plates. Et c'est alors bon, c'est un peu, ce sont des approches peut-être un peu théoriques, certaines entreprises expérimentent justement des hiérarchies plates, enfin des structures beaucoup plus réticulaires qui permettent justement des échanges beaucoup plus libres, je dirais, qui ne soient pas entravés par des relations hiérarchiques, des relations de contrôle et des relations de commandement, quoi, finalement.
Daniel Kiesu, j'aimerais qu'on revienne, et pour conclure cette émission, sur un dernier exemple, très rapidement, c'est celui du recrutement et d'un processus de recrutement qui peut ne pas fonctionner.
Oui, alors, j'ai un exemple qui est très intéressant. Nous avons des process, des checklists, parce que nous voyons de nombreux candidats, et pour mettre entre tous les jurys, d'être le plus proche d'égalité de traitement, donc on a une codification. Et il m'est arrivé d'avoir une très bonne codification, c'est-à-dire d'arriver à 18 sur 20, et ce candidat je ne le souhaiterais pas dans mon centre. J'ai des signaux qui s'allument, mais je ne le veux pas.
Pourtant, il y a une super note.
Ah, il a une super note. Et donc, j'ai réussi à faire rajouter une case où on met un commentaire, où on a discordance entre la note obtenue et la sensation que l'on a du candidat. C'est-à-dire qu'il va falloir aller plus loin, gratter au niveau psychologique, faire peut-être un nouvel entretien. Et j'en ai parlé à mes collègues, et eux étaient très surpris que je rentre dans cette démarche. Et ils m'ont dit en un mot, est-ce que ça vaut bien le coup tout ça? Parce que nous, on est comme toi, on l'a réglé le problème. C'est quand on ne le sent pas, eh bien on revient sur le process et on modifie la codification. Et c'est-à-dire qu'ils arrivent à une codification qui ne sera plus de 18, mais qui sera de 13, 14, le candidat n'a plus de chance d'être recruté.
Ils changent les notes à posteriori.
Ils changent le process, ils modifient le process pour arriver au résultat et à leur intuition. Voilà, donc c'est toujours très intéressant de voir. Moi, j'étais très fier d'avoir ajouté ma case. Eux, ils y ont trouvé complètement superflu. Et on pouvait faire beaucoup plus simple et plus rapide.
Bernard Perrault, vous devez connaître ce sujet dans le recrutement. Quelle part de l'intuition par rapport au process?
Le recrutement ou le licenciement. Si j'avais suivi mon intuition, j'aurais licencié deux de mes collaborateurs dès mon six mois après mon arrivée. Et finalement, très sincèrement, aujourd'hui, j'aurais fait une belle bêtise. Donc j'ai pris le temps de les connaître, j'ai pris le temps de faire qu'on puisse arriver à travailler ensemble. Et aujourd'hui, ce sont des collaborateurs qui sont extrêmement performants.
Donc la première impression n'est pas toujours la bonne.
Bah oui. Donc moi, attention. Et dans le recrutement, c'est pareil. Dans le recrutement, on a beaucoup tendance, y compris avec l'aide de process, on a beaucoup tendance à recruter des gens qui nous ressemblent. L'intuition, bah, en fait, c'est justement le contraire qu'il faudrait faire.
Bruno Roche,
c'est Thierry. Oui, non, je dirais attention de ne pas confondre donc l'intuition et l'impression subjective. Ce n'est pas la même chose. Et deuxièmement, par rapport à ce que vous disiez à l'instant sur le recrutement, je crois que c'est la preuve que l'unité de la personne n'est pas fragmentable en une série de qualifications, de caractères aussi précis soient-ils. Je crois que c'est vraiment le béaba de l'anthropologie. Et pourquoi la rencontre est-elle nécessaire? Précisément parce que vous rencontrez une personne, vous ne rencontrez pas une série de qualités. Et donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'une personne puisse avoir, je ne sais pas combien, 16, 17 sur 20 à un protocole ou selon les données d'un protocole, et que la personne elle-même, dans son unité, soit perçue par le recruteur autrement que ce que le process indique. Je crois que là c'est quand même une donnée de l'anthropologie qui est tout à fait essentielle. Une personne ne saurait se réduire à l'ensemble de ses dispositions ou de ses compétences.
Et ben, ça sera notre mot de la fin. Immense merci à vous trois. Bernard Perrault, je rappelle que vous êtes PDG du groupe Feu Vert, le lieutenant-colonel Daniel Quessu, sapeur-pompier, puis vous, Bruno Roche, philosophe et responsable de l'activité entreprise du Collège supérieur. Merci à Pascal Gauthier qui était à la technique aujourd'hui. Merci à Florence Kraut et toute l'équipe du Collège supérieur qui a monté ce débat. Pour plus d'informations d'ailleurs sur ce cycle de conférences Vie professionnelle quelques repères et tous les cycles de conférences du Collège supérieur, rendez-vous sur le site internet www.collegesupérieur.com. Et puis, comme d'habitude, si vous souhaitez réécouter ou partager avec vos amis cette émission, un site internet www.rcf.fr, section podcast ou notre application smartphone. Bonne fin de journée à l'écoute des programmes de RCF.